Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et N'Djamena, 8h30 à Goma. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Que se sont-ils dit ? On revient ce matin sur le déplacement avant-hier de religieux congolais en Ouganda. Dans le cadre de leur consultation en vue d'un grand dialogue sur l'est de la RDC, à Kampala, ils ont rencontré notamment l'ex-chef de guerre congolais Thomas Lubanga. Explication dans un instant. Dans ce journal également, la réaction du Lesotho après que Donald Trump l'a qualifié de pays que personne ne connaît. Les avocats camerounais en grève face aux abus et violences dont ils se disent victimes de la part des forces de l'ordre. On parlera aussi du Soudan du Sud avec de nouvelles arrestations dans l'entourage du vice-président Riek Machar et du Mozambique où le président a annoncé un dialogue national alors que le principal opposant Venancio Mondlane, lui, a été empêché de manifester hier à Maputo. Comme quand ils sont allés au Kenya et au Rwanda, les représentants des églises catholiques et protestantes de RDC ont rencontré le président en Ouganda avant-hier. La délégation de la CENCO et de l'ECC reçue donc par Yoweri Museveni dans le cadre de leur consultation pour promouvoir leur initiative de dialogue pour l'Est congolais. Mais à Kampala, ce mardi avant-hier, les religieux se sont aussi entretenus avec des ressortissants congolais et notamment avec Thomas Lubanga, ancien chef de guerre, condamné par la Cour pénale internationale et aujourd'hui accusé de collaborer avec le M23, le groupe armé qui occupe une partie non négligeable des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu. Florence Maurice.
La rencontre s'est tenue à Kampala, où vit Thomas Lubanga depuis juillet dernier selon l'ONU. L'échange a été bref, il n'était pas seul, mais entouré d'une série de personnalités exilées d'Ituri, y compris des notables et anciens députés, aujourd'hui en conflit avec les autorités militaires de la province. L'objectif des responsables religieux, rallier Thomas Lubanga à leur initiative, baptisée Pacte Social pour la Paix, et éviter que l'ancien chef rebelle ne s'implique militairement dans le conflit en cours, alors que les accusations contre lui se multiplient. La semaine dernière, les autorités militaires à Bunia l'ont accusé d'être en train de former une nouvelle rébellion alliée au M23. Selon nos informations, Thomas Lubanga dément avoir repris les armes, mais ne cache pas l'ampleur de ses griefs vis-à-vis du pouvoir en place. En janvier déjà, le groupe d'experts des Nations Unies l'avait accusé d'avoir joué un rôle clé dans le rapprochement entre le groupe armé Zaïre et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda et d'avoir, en tant qu'autorité morale du groupe Zaïre, facilité le recrutement de combattants, y compris parmi des anciens de sa milice UPC. Cette dynamique inquiète d'autant plus que Thomas Lubanga a été jugé coupable du massacre de centaines de civils en Ituri dans les années 2000, lorsque son groupe s'était allié successivement à l'Ouganda puis au Rwanda.
Florence Maurice, la situation de l'Est congolais au cœur aussi de la visite ces derniers jours de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Il a rencontré notamment le président rwandais Paul Kagame et il a précisé que l'UE était bien en train de préparer des mesures individuelles pour sanctionner le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Au Tchad, on apprend que l'un de nos correspondants à N'Djamena a été arrêté hier, Olivier Monodji, interpellé au bureau du journal Le Pays, dont il est par ailleurs le directeur de la publication. Il a passé la nuit dans un cachot de la direction de la police judiciaire et n'avait pas, hier soir, encore été formellement entendu. Son ordinateur a été saisi, mais aucun motif ne lui a été présenté pour justifier de son arrestation. C'est une remarque qui n'est pas passée inaperçue en Afrique australe. Hier, à Washington, quand le président américain Donald Trump a justifié la suspension de la majorité de l'aide au développement des États-Unis en prenant l'exemple du Lesotho, un pays, assure-t-il, dont personne n'a jamais entendu parler et qui bénéficierait de 8 millions de dollars de la part des États-Unis pour promouvoir les minorités sexuelles. Des mots qui ont suscité de l'indignation sur place. Pierre Firsion.
La petite phrase de Donald Trump et les rires sardoniques à l'arrière-plan du vice-président Jill Evans n'ont pas été du goût des habitants de ce petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud. « Vous avez entendu parler du royaume dans les cieux ?» l'a interpellé sur X le militant pro-démocratie Kananelo Bolo-Etse. « J'imagine que non, trop occupé à jouer au golf pour le remarquer », s'est-il moqué, avant de décrire son pays comme le seul au monde, entièrement situé à plus de 1000 mètres d'altitude, avant d'ajouter « On est là, on est fiers, et on n'est pas là pour vous servir à faire des blagues ». Auprès de la BBC, Leon Podjoan, le ministre des Affaires étrangères, s'est dit lui choqué d'entendre un chef d'État faire référence à un autre État souverain de cette manière, alors que les deux pays entretenaient jusque-là des relations chaleureuses et cordiales, selon un porte-parole du ministère. Le Lesotho est notamment un des bénéficiaires du plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, et pour cause, le pays a un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde. L'aide américaine sert-elle également à promouvoir la cause LGBTQ, comme l'a affirmé Donald Trump? Rien n'est moins sûr. People's Matrix, la principale ONG qui soutient les LGBTQ dans le pays, a assuré à l'AFP n'avoir jamais reçu de fonds américains.
Pierre Firsion, les États-Unis, dont l'ambassade à Djouba au Soudan du Sud, avec celle de l'UE et du Royaume-Uni, appellent au dialogue. Après plusieurs jours d'affrontements entre l'armée et une milice présentée comme proche du vice-président Riek Machar près de la frontière avec l'Éthiopie, et alors que la journée d'hier a vu de nouvelles arrestations dans l'entourage justement de Riek Machar, qui est aussi un opposant au président Salva Kiir. À Djouba, la correspondance de Florence Mietto.
Le porte-parole du gouvernement a déploré la reprise des violences mardi à Nassir, malgré une rencontre la veille entre Salva Kiir et Riek Machar. Le dirigeant d'opposition s'était engagé à dissuader la White Army de continuer ses combats. Pour Michael McQuay, les évidences sont là.
Il y a une vidéo ici qui prouve que la soi-disant White Army est en fait une force de l'armée d'opposition. Et c'est elle qui a attaqué et pris Nassir.
Sans pouvoir vérifier la provenance des images, Michael McQuay montre ensuite aux journalistes des images de jeunes de la White Army sur son téléphone.
Qu'ils contrôlent leurs forces et leur donnent les directives nécessaires de se retirer de Nassir. Ce qui s'est passé a été en fait organisé et coordonné depuis ici, à Djouba.
Interrogé concernant les arrestations de mardi de membres éminents de l'opposition, Michael McQuay confirme des arrestations, notamment celles du chef d'état-major Gabriel Duoplam et du ministre du pétrole, Pwod Kong Chol.
Ils ont été arrêtés car ils sont en conflit avec la loi. Nous ne plaisantons pas, car nous avons besoin de sécurité. Et donc, si qui que ce soit est arrêté, c'est qu'il y a une raison.
Dans un communiqué ce mercredi, les chancelleries occidentales expriment leur inquiétude face à ces arrestations et appellent à une cessation immédiate des hostilités dans le Haut-Nil, ainsi qu'à un dialogue pacifique des dirigeants à Djouba. Florence Mietto, Djouba, RFI.
RFI, 8h37, à Maputo, le fossé continue de se creuser au Mozambique entre le président Daniel Chapo et son principal opposant Venancio Mondlane. Hier, au moment où le premier annonçait un accord pour un dialogue national avec une partie de l'opposition et de la société civile, le deuxième était empêché de manifester. Lisa Fabian.
9 signataires entouraient le président Daniel Chapo pour l'adoption de ce pacte politique très contesté. Le chef de l'État mozambicain l'a présenté comme une main tendue à tous les citoyens du pays.
Ce dialogue national inclusif est un espace dans lequel tous les Mozambicains ont leur place, y compris ceux qui se disent manifestants, qu'ils soient affiliés à un parti ou non. Nous appelons à créer et consolider un système politique pluraliste et démocratique.
L'opposant Venancio Mondlane était pourtant absent et il a rejeté cet accord. Celui-ci bénéficie en revanche du soutien de son ancien allié Albino Forquilla, le leader du parti Podemos.
Les intérêts de la patrie mozambicaine doivent être placés au-dessus des partis politiques. Nous devons tracer un chemin vers un Mozambique uni, prospère et développé. Il faut dépasser une fois pour toutes les crises récurrentes dans le pays. On ne peut pas normaliser les troubles à l'ordre public qui entravent la libre circulation des personnes.
Au même moment, une manifestation conduite par Venancio Mondlane a été brutalement dispersée par les tirs de la police. Les partisans de l'opposant ont dénoncé une embuscade contre lui.
Et d'après l'ONG Plataforma Decide, les forces de l'ordre ont même fait usage de balles réelles et 14 personnes ont été blessées. Pas de robe noire dans les tribunaux au Cameroun depuis hier et jusqu'à demain. Les avocats camerounais sont en grève. Ils dénoncent la passivité des autorités face aux abus et agressions dont ils se disent victimes de la part des forces de l'ordre. À Yaoundé, Polycarpe Somba.
La grève a été provoquée par la diffusion sur les réseaux sociaux début mois de mars d'une vidéo où l'on pouvait voir un avocat molesté par les forces de l'ordre.
noire. Intolérable, estiment les hommes en robe noire, d'autant que le fait venait s'ajouter à d'autres enregistrés ces derniers temps. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Maître Mba, Eric Mba.
Ces derniers temps, de plus en plus, les avocats sont maltraités, molestés, menottés et traités de la manière la plus dégradante. Même la façon dont les avocats sont traités dans les unités de police et de gendarmerie est horrible. Et la question que nous nous posons est la suivante. Si les avocats peuvent être traités de cette manière, qu'en est-il du citoyen ordinaire ?
Entre autres actions préconisées pendant ce débrayage de 72 heures, la suspension du port de la robe noire et la non-fréquentation des cours et tribunaux sur l'étendue du territoire national.
Après ces trois jours, nous reprendrons le travail en espérant qu'ils auront entendu notre message et qu'ils amélioreront la situation. Nous sommes très optimistes. Le ministère de la Défense m'a déjà contacté pour comprendre le problème. Je l'ai expliqué et ils ont dit d'accord, est-ce que l'on peut en parler ? Quant aux gendarmes, nous avons déjà entamé des discussions avec eux. La police, je sais qu'elle suivra également.
Au terme de ces 72 heures d'arrêt momentané de leurs activités, les avocats espèrent que cette forme de plaidoirie fera écho auprès des autorités pour une meilleure prise en compte de leur sécurité et plus d'égard à leur corps de métier. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Et puis avant de retrouver Andréane Mellard dans 3 minutes pour la suite d'RFI Matin, notre dossier ce jeudi s'intéresse aux livres de jeunesse, aux livres destinés pour les enfants. À partir d'aujourd'hui, un salon sur le sujet est organisé à Lomé, au Togo, le FEJA pour Forum des éditeurs jeunesse d'Afrique, financé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour un secteur en plein boom, mais encore très fragile, nous explique Olivier Roger.
Ravaka Miam a lancé les éditions Carnet en 2021 à Madagascar. Sur la grande île, le secteur est encore neuf et donc fragile. Et pour Ravaka Miam, le FEJA, c'est d'abord l'opportunité de se créer un réseau.
Moi, par exemple, je mise énormément sur la qualité de mes titres et je suis convaincue qu'en fait, certains des livres que je publie chez Éditions Carnet peuvent parler à d'autres pays africains.
Tisser des liens entre éditeurs pour favoriser les cessions de droits et les coéditions, voilà les objectifs du FEJA. Pour Serge Gras, responsable éditorial de la maison d'édition ivoirienne Vallès, le rachat de droits de publication, c'est tout bénéfice.
Ça enrichit notre catalogue en tant qu'éditeur, parce qu'il est clair qu'un livre déjà fait, que vous rééditez, la charge de travail est réduite.
La problématique de la distribution du livre, celle de ses coûts de fabrication seront aussi au cœur des débats. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire fait figure de cas à part et d'exemple à suivre. Serge Gras.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des compétences en matière d'illustrateurs, en matière de graphistes, en matière d'imprimerie. Toute la chaîne du livre peut se faire en Côte d'Ivoire et du coup, nos livres sont vraiment compétitifs.
Le secteur de l'édition jeunesse d'Afrique a beau décoller depuis une dizaine d'années, il demeure fragile et doit toujours convaincre qu'il n'offre pas seulement des produits de distraction, mais qu'il représente bel et bien un vecteur d'éducation.
Et justement, les thématiques d'éducation et le développement de la classe moyenne sur le continent africain, voilà ce qui peut porter le secteur, estime Agnès Debiage, l'initiatrice du salon.
C'est un facteur très très important, effectivement, cette classe moyenne. Les parents, en fait, ces jeunes parents ont été habitués ou ont déjà été en contact dans leur jeunesse avec le livre. Donc, ils en connaissent le bénéfice, ce qui est quelque chose qui peut être nouveau par rapport à il y a 15-20 ans. Du coup, ils ont envie aujourd'hui de donner, à partir du moment où ils en ont un petit peu les moyens, le meilleur à leur enfant pour son éducation, pour son ouverture sur le monde. Et en plus, il y a une appropriation en fait des imaginaires africains qui est fantastique. Et ça se traduit effectivement aussi bien dans l'illustration que dans les écrits, que dans la BD. Alors, je serais tentée de dire aujourd'hui qu'il faudrait que les auteurs s'intéressent un petit peu plus aussi à ce vecteur de la jeunesse pour apporter un petit peu plus de créativité. Là, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Là, dans le cadre du forum, on va animer toute une matinée d'ateliers sur la créativité dans le livre jeunesse. S'intéresser un petit peu à d'autres formes d'illustration, notamment avec des artistes. Il y a plein de choses encore à créer.
À Lomé, où se tient ce forum sur les livres pour enfants? Il est maintenant 6h44 et vous êtes avec Andréane Mellard.